Allô, Élise.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
Ça me fait vraiment plaisir.
Pour la sortie de ce livre, Le défi vegan 21 jours, qui est, comme je le disais, très pratico-pratique, peut-être parce qu'il découle de vraies interrogations. C'est un livre que vous avez écrit suite aux questions de gens qui faisaient Le défi vegan 21 jours.
Oui, en fait, j'ai déjà écrit deux essais que j'écrivais pour moi. Je me posais des questions sur les conséquences de notre alimentation sur l'environnement, sur les travailleurs, sur les animaux. J'ai écrit Je mange avec ma tête. Je réfléchissais à l'omniprésence des produits laitiers dans la société. J'ai écrit Vache à lait. Oui. Là, je voulais simplement aider les gens parce que souvent, on va être d'accord avec les arguments, mais donc on est d'accord avec le pourquoi, mais le comment est un peu plus compliqué. Et puis oui, il y a des milliers de Québécois qui ont fait les trois premières éditions du Défi vegan, qui ont posé plein de questions. Puis depuis, sept ans, huit ans, je rencontre des gens, je donne des conférences et il y a des questions qui reviennent toujours et c'est des questions qui n'ont pas de réponse publiée si oui. facilement que c'est ça. Bien, on a des livres de recettes, on a des livres d'arguments, mais il n'y avait rien encore sur le marché québécois qui montrait comment changer ses habitudes et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre-là.
Oui, puis c'est bien que vous le spécifiez parce que là, on est loin de Vache à lait, on est loin de Je mange avec ma tête, c'est-à-dire pas nécessairement dans la recherche. Oui, il y a des notions, pas nécessairement dans la science. Oui, évidemment, c'est parsemé, c'est sérieux cet ouvrage, mais on est vraiment dans l'accessibilité. Et en premier lieu, ce que l'on comprend, c'est qu'être végane, ce n'est pas juste lié à la sphère alimentaire. Ça va au-delà de ça.
Oui, l'idée derrière le défi vegan 21 jours, c'est un peu comme un séjour d'immersion. Ce que j'ai envie de proposer aux gens, c'est essayer pendant 3 semaines pour voir ce que c'est. Puis évidemment, en 3 semaines, on va pas changer sa vie au complet. Mais c'est une bonne occasion de mieux comprendre les enjeux derrière le véganisme. Donc, quand on parle de véganisme, on parle d'alimentation sans protéines animales, donc sans viande, sans poisson, mais aussi sans lait, sans œufs. Et ça, bien, ça va être le gros du défi. Si on enlève la viande, les œufs, qu'est-ce qui reste? Puis qu'est-ce qu'on rajoute? Mais c'est aussi l'occasion de s'ouvrir les yeux sur les autres formes d'exploitation animale. Puis être végane, c'est refuser toute forme d'exploitation animale. Donc, on va parler dans le guide, par exemple, du test des cosmétiques sur les animaux, qui est une aberration, l'exploitation des animaux pour leur fourrure, l'exploitation des animaux pour leur cuir, des trucs dont on parle assez peu parce que c'est pas des réalités qui nous excitent, on veut pas le savoir, mais si on est végane pour des raisons environnementales, par exemple, on devrait peut-être aussi refuser de porter du cuir ou de la fourrure parce que juste d'un point de vue environnemental, c'est assez catastrophique. Donc, je donne dans le guide des pistes aussi pour aller plus loin, pour réfléchir. Si on se donne 3 semaines ou on change son alimentation, profitons-en pour apprendre d'autres choses.
Et vous attisez notre curiosité parce qu'il y a plein de suggestions de livres également à la fin de chaque paragraphe, même dans plusieurs pages, des suggestions de lecture pour aller plus loin dans notre réflexion. C'est important de dire que vous incitez pas les gens à acheter leurs vêtements en laine, leurs chandails de laine ou quoi que ce soit. Non, c'est petit pas par petit pas.
C'est petit pas par petit pas. Ça, toutes les études en psychologie nous le montrent. Pour changer, on faut y aller par petits pas. N'importe quelle habitude, ne serait-ce que décider d'aller au gym, ce qui est un gros défi pour moi ces temps-ci, ou n'importe quel autre changement, il faut y aller par petits pas. Et lire, apprendre des choses, c'est une façon aussi d'avancer vers ça. Donc, le guide est très, très simple. Il va se lire en quelques heures. C'est aussi séparé en petites sections, donc on n'est pas obligé de lire ça tout d'un coup. Ça peut être une lecture sur plusieurs jours, mais avec des pistes pour aller plus loin, parce que souvent, certaines lectures vont susciter des questions, puis on va vouloir en savoir plus. Donc, je voulais garder le livre simple, mais avec une ouverture pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et approfondir leurs connaissances.
Oui. Séparé donc en différentes catégories, il y a une vingtaine de recettes à la fin, mais en premier lieu, sur les différents aspects, pourquoi il peut être bien de faire ce virage vegan, tout d'abord sur la santé, notre santé personnelle.
Oui, donc on pourrait être végane ou végétalien pour des raisons purement égoïstes pour notre santé. On sait, et ça on en parle de plus en plus, que l'alimentation végétalienne peut prévenir et même renverser certaines maladies comme les plus fréquentes en Occident quand on parle de maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 par exemple, le développement de certains cancers. Ça peut être prévenu par l'alimentation végétalienne. On a vu des gens qui avaient un diabète de type 2 qui ont arrêté de prendre leurs médicaments parce qu'ils ont changé leur alimentation. Donc ça, c'est assez impressionnant. Évidemment, il ne s'agit pas juste de remplacer la viande par des chips, là. On parle d'une alimentation équilibrée.
Ou même de la salade, parce que manger de la salade ne serait pas approprié non plus.
Bien, aussi bien de boire de l'eau, mais ça ne suffit pas, là. Donc, ça demande quand même un changement majeur. On parle d'aliments entiers. On parle d'une alimentation diversifiée avec très peu d'aliments transformés. Ça réduit aussi l'exposition aux bactéries pour aux métaux lourds qu'on trouve dans la viande. Et puis on sait que les végétaliens ont une masse corporelle, un poids moins élevé que les omnivores. Donc si on cherche à perdre du poids, ça peut aussi être une bonne chose. Donc c'est bon pour la santé. Et ça, c'est quelque chose dont on commence à parler, mais qui est assez récent. On a souvent pensé que les végétariens, végétaliens étaient à risque de carence et qu'on mettait sa santé en danger en adoptant un régime vegan. Et ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt le contraire. Évidemment, il faut être prudent. Puis il y a plein de petits détails auxquels il faut penser qui ne sont pas si compliqués, mais il faut le savoir. Ce qu'on dit moins, c'est que les omnivores sont plus carencés que les véganes, notamment en termes d'apport en fibres. Les fibres sont super importantes pour notre digestion, pour la santé intestinale. Et une large proportion des omnivores manquent de fibres. Et ça, on n'en parle pas. Donc, les omnivores qui me demandent où je trouve mes protéines, je vais leur demander à eux où est-ce qu'ils trouvent leurs fibres.
Ouais. Je trouvais ça intéressant dans le livre, Élise, parce qu'il y a un passage où vous dites souvent le régime végétalien, c'est associé à un régime sain. Donc, sans produits laitiers, sans œufs, sans viande. Mais il y a façon de renverser ça pour le voir aussi d'une façon plus positive.
Oui, donc c'est une alimentation avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de végétaux qui sont riches en toutes sortes de vitamines et de nutriments. Donc, c'est riche en légumineuses. Et là, 2016, c'est l'année des légumineuses.
Voilà.
On ne mange pas assez de légumineuses. C'est la meilleure source de protéines qui soit. Il y a des fibres, il y a tout là-dedans. Et les légumineuses, c'est large, là. On les connaît pas. Et puis, je me suis fait plaisir dans le livre, à la fin, en mettant les tableaux de trempage puis de cuisson des légumineuses.
Oui, oui.
Parce que j'essaie d'en consommer de plus en plus, moi aussi. Et j'étais tannée de toujours chercher sur Google. Puis, je me rappelle jamais, là, je l'ai à la fin de mon livre. Et ça va me servir à moi. Même chose pour les céréales. On connaît assez peu les différentes céréales qu'on peut intégrer à son alimentation. De plus en plus, mais millet, quinoa, tout ça, au-delà du riz blanc, il y a plein de céréales qu'on peut découvrir. Et puis tous ces légumes, là, au-delà de la laitue iceberg, qu'on peut intégrer dans son assiette. Les noix aussi. Donc, quand on enlève la viande, il faut le voir comme une opportunité de rajouter plein de nouveaux aliments.
Une cuisine qui est variée, on le comprend bien lorsqu'on parcourt votre livre, Élise, et en même temps, je trouve un régime qui donne envie de cuisiner. Vous le dites même dans votre parcours au départ, là, cuisiner, il y a quelques années, c'était pas nécessairement votre habitude préférée.
À part le samedi soir avec des amis, mais sinon, non.
Et ce mode-là vous a amené à cuisiner davantage.
Oui, et puis j'ai des semaines assez chargées, et puis j'ai pas beaucoup de temps pour cuisiner, et j'ai toujours pas tant de plaisir que ça à le faire. Il y a des gens qui adorent cuisiner, moi pas du tout, et j'ai découvert des trucs pour bien manger chez moi, des plats préparés à la maison, des trucs que je partage dans le livre, par exemple, préparés d'avance. On parlait de céréales, du riz entier, du millet, des trucs comme ça. Si j'en prépare pour un repas, en fait, j'en prépare pour 2-3 repas et je vais en laisser dans le frigo. Comme ça, par la suite, pour me préparer un bol, par exemple, j'aurai déjà du riz, j'aurai déjà du tofu qui est déjà grillé. Je vais juste prendre tout ça, mélanger, ajouter une petite sauce, puis j'ai un super dîner.
Oui. Aussi, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le régime vegan, végétalien, régime végétalien, je pense qu'on le dit mieux ainsi, peut être approprié pour bien des gens, c'est-à-dire même les femmes enceintes, même les enfants, c'est possible.
Absolument. Ben là, c'est ça, je ne suis pas nutritionniste. Sur ces questions-là, je me tourne vers les recommandations officielles et l'Association des diététistes du Canada et des États-Unis le rappelle, c'est approprié à tous les stades de la vie. Donc, femmes enceintes, femmes qui allaitent, bébés, enfants, même les sportifs de haut niveau aussi. Et ça, il y en a de plus en plus. Des amis qui font de la course à pied d'un point de vue un peu plus professionnel me disent qu'autour d'eux, parmi les coureurs, il y en a beaucoup. Au Québec, Mégane Duhamel, qui est la championne du monde en patinage en couple, en patinage artistique, est végane pour des raisons morales depuis plusieurs années. Elle, j'avais fait une entrevue avec elle il y a quelques années, puis elle m'avait dit, quand elle est devenue végane, les nutritionnistes de l'équipe olympique canadienne lui ont dit, ta carrière est finie. Là. Je pense que si tu ne manges pas de viande, tes performances vont s'en ressentir. Puis, elle performe encore mieux qu'avant. Puis, elle a 30 ans maintenant, donc pour une carrière sportive, en général, c'est le déclin. Et elle est de meilleure d'année en année. Mais j'ai dit, oui, mais évidemment, toi, tu as des nutritionnistes qui te suivent, puis tu as des shakes spéciaux, puis des trucs. Et en fait, non. Elle mange la même chose que moi. Elle se prépare ses repas sans calculer les nutriments. Puis tout ça, elle mange à sa faim. Puis c'est quelqu'un qui s'entraîne 6 heures par jour.
Et qui performe.
Et qui performe. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Georges Larac aussi, comme dans un autre extrême corporel, qui est à peu près le double de moi.
Ah, c'est un géant, Georges Larac.
Et qui est végétalien, ça n'empêche pas d'avoir une bonne masse musculaire.
Oui. Donc, d'un point de vue peut-être plus égoïste, comme on le disait, pour notre santé personnelle, mais il y a aussi des bienfaits pour notre environnement, à savoir que, en fait, si on diminue notre quantité de viande, on diminue aussi le gaz à effet de serre.
Oui, mais ça, l'ONU nous demande de réduire de 50 % notre consommation de viande d'ici 2050. Et là-dessus, tout le monde répond, mais moi, je ne mange pas beaucoup de viande. Oui, mais il faut réduire quand même de 50 %. Il faut savoir que l'élevage est responsable de 14 à 18 % des émissions de gaz à effet de serre. On ne pourra pas rencontrer les objectifs d'augmentation de 2 degrés de réchauffement climatique sans changer drastiquement notre alimentation. Il faut manger beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de viande si on veut lutter contre le réchauffement climatique. Et à titre individuel, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a déjà, autant que possible, adopté le transport collectif quand c'est possible. On éteint les lumières, on ferme le chauffage.
Le robinet lorsqu'on se brosse les dents.
Mais après, c'est vraiment des tout petits gestes quand on regarde l'impact que peut avoir notre alimentation. Par exemple, on cherche à manger local depuis plusieurs années. Au Québec, c'est super bien, mais il vaut mieux, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de manger végétalien une seule journée par semaine que local tout le temps. C'est incroyable l'effet que ça peut avoir. Même chose pour l'eau. Dans un litre de lait de vache, il y a 1000 litres d'eau qui rentrent là-dedans, compte à peu près 300 litres dans un litre de lait de soya. C'est des proportions énormes, là. Donc, il vaut mieux se passer, par exemple, de douche pendant 6 mois et l'équivalent en eau de 500 grammes de bœuf. Donc, on a le choix entre couper 500 grammes de bœuf ou de douche pendant 6 mois. Je pense que couper le bœuf est préférable.
Il y a aussi tout l'aspect lié à la cruauté envers les animaux. Souvent, on va se faire dire, les poules qui pondent des œufs, elles ne souffrent pas quand elles pondent. Encore une vache, ça donne du lait, c'est normal. Vous avez des arguments aussi pour ça.
Oui, effectivement, une poule pond naturellement des œufs. Dans l'élevage, par contre, il n'y a pas grand-chose de naturel. Les poules sont enfermées dans des cages. Elles sont 6 par cage. Chacune a un espace qui est plus petit que celui d'une feuille mobile. Elles ne peuvent pas ouvrir leurs ailes. Elles ne peuvent pas se déplacer ni exprimer leur comportement naturel. Et après 2 ans, quand leur productivité diminue, on les envoie à l'abattoir. Il n'y a pas de différence entre les poules qu'on va manger en poulet et les poules pondeuses. Il faut aussi savoir que, évidemment, les mâles des poules pondeuses ne pondent pas et ils n'ont pas la bonne génétique pour devenir des poulets de chair. Donc, on les broie à la naissance. Il y a énormément de cruauté dans la production d'œufs. Le lait, c'est la même chose. Une vache ne produit pas naturellement du lait. C'est comme n'importe quelle même femme.
Elle doit avoir un veau pour le faire.
Elle doit avoir un veau. Son veau, si c'est une femelle, va devenir une autre vache laitière. Si c'est un mâle, il va devenir de la viande de veau. La vache va passer, même dans des élevages biologiques, va passer sa vie essentiellement attachée, avec parfois un accès à l'extérieur l'été quand il fait beau. Puis après 4 ou 5 ans, quand elle a fini son cycle de donner naissance à un veau qu'on lui enlève et de donner du lait attaché à une treilleuse, on va l'envoyer à l'abattoir pour qu'elle devienne de la viande hachée. Donc, la filière viande, la filière lait, la filière œuf, c'est la même chose. Je disais dans Vache à lait qu'il y a sans doute plus de cruauté dans un verre de lait ou dans une boule de crème glacée qu'il y en a dans un steak.
Oui. Ce sont tes arguments, de l'information auxquelles on a accès dans le défi vegan 21 jours et qui peut nous servir à alimenter notre, nos discussions avec nos proches. Mm-hmm. Parce que, comme je le disais en introduction, quand on fait ce virage-là, un changement dans notre mode alimentaire, évidemment, on aura ce genre de commentaires. « Ah, tu manges plus rien en ce moment, on peut plus t'inviter. Pourquoi, bon, pourquoi tu goûtes pas? J'ai fait ce plat-là pour toi. » Et j'ai particulièrement apprécié, Élise, dans le livre, ce petit guide d'autodéfense intellectuelle, à savoir comment on peut, peut-être pas se défendre, mais pouvoir discuter avec ses proches qui le font par amour, mais peut-être, peut-être mal. Comment on prépare nos proches à ce changement-là?
Bien, c'est important de dire que les proches, quand ils argumentent avec nous, ils le font par amour. Et on peut le voir par confrontation, mais les, je pense que si les gens nous disent « mais tu manges rien, as-tu pensé à ton apport en fer, tu vas être correct », c'est parce qu'ils nous aiment et qu'ils tiennent à nous. Donc ça, c'est important de le voir. Il faut se mettre à la place des omnivores et comprendre leur défense. Donc ça, c'est la première des choses. Dans le guide, je donne des exemples pour discuter avec eux, pour mettre fin aussi aux discussions quand on en a envie, mais aussi des réponses à donner, parce que c'est pas parce qu'on on devient végane qu'on devient spécialiste de la nutrition ouais. et des questions environnementales et des questions éthiques. Et puis, les omnivores qui nous entourent, eux, ils s'attendent de nous qu'on ouais. soit ces spécialistes-là.
Mais oui, surtout que si on le fait, par exemple, pour notre santé, pour contrer, par exemple, notre diabète, ouais. ben on connaît peut-être pas nécessairement les questions plus éthiques, environnementales ou envers la cruauté des animaux. On connaît pas nécessairement l'entièreté du sujet.
Donc, j'ai pris les questions qu'on me posait le plus souvent, mais qui sont les questions les plus fréquentes. Et si on arrête de manger les animaux, est-ce qu'ils vont nous envahir, par exemple? Des questions comme ça, puis je donne des petites réponses simples. L'idée, c'est pas que les gens apprennent ces trucs-là par cœur. Je suis pas en train de dire aux gens quoi répondre, mais je veux leur donner des outils pour se défendre et encore là aussi pour aller plus loin. Mais c'est important, je pense, de comprendre que les gens qui remettent en question nos choix le font souvent par curiosité. Ils entendent parler de véganisme, ils en ont jamais vu autour d'eux. Puis, ben, à quelque part, ils se sentent peut-être confrontés. Ouais. Si moi, je dis que je suis végane pour des raisons environnementales ou par compassion avec les animaux, je suis peut-être en train de dire à toi que tu n'es pas une bonne personne.
Ouais.
Et on n'aime pas entendre ça. On n'aime pas entendre qu'on n'est pas des bonnes personnes. Donc, il y a plein de mécanismes psychologiques qui rentrent en ligne de compte. Nier qu'un problème, mais voyons donc, tu sais, les vaches ne souffrent pas quand elles donnent du lait. Ou mépriser aussi les choix des véganes. Leur dire, ben, il y a quand même d'autres problèmes plus graves. Il y a des enfants qui meurent de faim. Tout ça, c'est peut-être aussi des mécanismes d'autodéfense de la part des omnivores pour ne pas se sentir mal de ne pas, eux, être en train de oui. faire la transition.
Et vous leur dites même dans ce livre, et je trouvais ça très bien, on peut choisir nos combats. On n'est pas toujours obligé de répondre. Et c'est correct simplement de faire un beau sourire puis de changer un autre sujet.
Oui, de trouver des sujets sur lesquels on s'entend. Les repas de famille peuvent facilement devenir des discussions autour du véganisme d'une personne à table, alors qu'on peut parler tellement d'autres sujets qui nous unissent.
Oui, et nos relations sociales et humaines sont bien plus importantes que bien d'autres
Absolument.
Choses. Le défi vegan 21 jours, il y en a un qui commence le 1er mai,
oui.
Élise.
Donc, c'est un défi collectif où plusieurs centaines, milliers de Québécoises, Québécoises vont décider ensemble d'essayer d'adopter une alimentation végétalienne pendant 3 semaines. Ils vont recevoir des trucs à chaque jour, des conseils, des chats, toutes sortes de trucs comme ça. On va s'inscrire à ledefivegan21jours.com.
Voilà.
C'est complètement gratuit.
On le mettra sur notre site.
D'accord.
Le défi vegan 21 jours, c'est aussi chez Trécaré, mm-hmm. par vous, Élise Desauniers, auteure que j'aime beaucoup. Merci beaucoup.
Merci.